Não, está bom, não vejo.
Mais après 10 minutes après, j'arrêtais.
La vidéo, c'était
et je dois recommencer. Et puis moi, oui, ça c'est le portrait, ok.
Ouais.
Et après 10 minutes, on a l'image. Ça arrêtait.
De toute façon, ça m'est arrivé seulement une fois de scraper une demi-bobine. Toutes les autres sont
correctes. Ça devrait peut-être être dû, comme Franz disait, quand vraiment tu scrapes, les têtes sont pas bonnes, c'est quand tu l'as déjà écouté, toi.
Ouais.
Là, scrap,
c'est pas pour ça, c'est parce qu'elle,
parle... c'est ça, mais elle.
Ouais, j'ai déjà scrapé dans une réunion, puis on passait de aller, tu sais,
ouais.
à l'accélération à gauche.
Dans ce qui se passe aussi, hein, c'est qu'elle les a réécoutées, les bobines de l'autre côté. Fait que quand tu l'as écouté, tu l'arrêtais à la porte, tu l'arrêtais à la porte, tu la scrapes.
Mm-hmm.
Elle a l'air débat. D'un bon côté, mais l'autre côté,
non, mais dans ce cas-là, on va commencer, là. Je vois que tu as commencé à produire en 63. En tout cas, les premières expositions sont en 63. Avant ça, est-ce que déjà tu travaillais? Est-ce que tu as fait des études en art? Ou,
Oui, j'ai suivi des cours dans l'art. Je viens de Toronto, oui.
Ouais.
Et c'est l'école Danford Technical School. C'était des cours commerciaux. Mais après que j'ai gradué, j'ai suivi le cours à Ontario College of Art à Toronto. Mais après un an ou deux, j'ai décidé de rejeter tout ça parce que c'est trop, comment ça, confining, trop serré pour moi.
Mm-hmm.
Et j'ai fait quelques voyages. J'ai même passé un an à Paris, en France. Et j'ai suivi un cours dans l'école de Beaux-Arts. Mm-hmm. Mais c'est la même chose là-bas. Et avec tout ça, j'ai, on peut dire, un peu de dessin, un peu de peinture, mais c'est des choses bien conventionnelles. Je n'ai pas mon moyen, tout ça. Et à cause des problèmes personnels dans la famille, tout ça, j'ai quitté le tout. Et c'est simplement... après une lacune de peut-être de 10 ans, que je retourne en faisant des choses dans l'art.
Tu avais fait ton Ontario College of Art, tu étais ici en 53, 54?
C'est 50. C'est quoi? Paris, c'est 54, 55. Et Ontario College of Art, ça c'est 51, 52.
Mais
entre 55 et 62, ça c'est 7 ans, j'ai rien fait.
Mm-hmm.
Pourquoi tu es revenu?
Et après, je suis revenu, je suis dans un hôpital et j'avais un genre de maladie, c'est le colite. On ne connaît pas ça. Hein?
Non.
ça fait beaucoup de mal.
C'est où?
C'est où? Colitis.
Ah, des coliques.
Pas mal de coliques. Ça, c'est un genre de ulcération dans le côlon.
Ah, ok, ok. Une inflammation, tu vois là.
Oui, on a des trous dedans, tout ça. Et je ne peux pas manger les choses. Je suis toujours avec la nausée, je veux vomir. Et je dois rentrer à l'hôpital pour les examens. Ils ont même pensé de couper toutes mes colonnes et mettre le rectum ici. Et ils ont,
avec un diable.
Ça arrive. Si, c'est assez grave. On a des choses comme ça.
On doit coudre
le rectum normal, faire le trou ici, ça c'est le rectum après ça. Mais ils ont tenté de guérir ça avec les drogues, les ACTH, quelque chose comme ça. Et après tout ça, je suis retourné. Mais pendant mes séjours là-bas, parce que j'ai passé quoi, une onzaine de semaines, j'ai retourné à faire quelques dessins, quelques aquarelles, des choses comme ça.
Pourquoi?
Mais d'après moi, je pense que je n'ai pas fait ça là depuis quoi, 7 ans, mais ça c'est toujours avec moi. Je pense des choses, mais je ne fais pas les choses. Je pense à ma vie comme, comme quelque chose de là, sans reproduire ça.
Sans faire de l'œuvre.
Oui, c'est ça. Et parce que peut-être que c'est un genre de poésie, de, je ne sais pas moi, parce que c'est quelque chose de pas mal flou. Je ne suis pas tellement conscient de tout ça. Mm-hmm. Et dans l'hôpital, je ne sais pas, peut-être ça c'est avec ces drogues qui m'a retourné. Je ne sais pas, ça se peut. Et que ça, au lieu de penser que bon, je ne veux pas, je ne veux plus faire des choses avec de l'art, mm-hmm. ça m'a donné. Parce que je pensais que qu'on n'a pas les moyens possibles dans l'art pour moi. Parce que c'est trop serré, c'est pas quelque chose avec
pas libre,
libre avec la vie, tout ça. Mais dans l'hôpital,
t'avais le temps à ce moment-là.
J'avais le temps, je suis libre de tous mes soucis quotidiens et j'aimais beaucoup ça. Mm-hmm. Et au lieu d'être hampered par les pensées que oh, c'est pas bon et tout ça, j'ai décidé d'aller au bout à chaque fois. Mm-hmm. Et avec cette confiance qui me revient, et c'est moi qui me dirige au lieu des autres qui me dirigent, mm-hmm. comme j'ai, peut-être comme j'avais comme souvenir des années passées, je suis à l'aise et après quelque temps, je trouve que j'ai fait des dizaines de tableaux à temps, à la fois.
Mm-hmm.
Ouais. Ah oui, n'importe quelle chose que j'aime, j'ai fait.
Quand tu peux dire...
Sans penser que ça c'est
bon, pas bon,
bon ou quoi. J'aime ça, j'ai fait ça. Mm-hmm.
C'était ta première
expo.
Non, non, c'est pas des expos, c'est simplement...
En 63, ta première expo, c'était ça.
Mais ça c'est pas un expo. Et,
63.
Ça c'est en 63, après quoi, une année où j'étais chez mes tantes et oncles à Lac Vert, ça c'est près de Saint-Jean-de-Martin. Mm-hmm. J'ai fait des choses avec les roches mm-hmm. à côté du lac là-bas. Mais pour moi, c'est quelque chose pour moi, mais pour les autres, c'est quoi? C'est rien. J'ai pensé même à faire les choses comme les grandes tasses de ces roches, qui est pas mal pareil des choses qu'on fait quand même dans les ruelles, dans la campagne, tout ça. Et pour moi, ça c'est pas quelque chose de différent, ou ça c'est pas anti-art, tout ça. J'aime ça, je trouve que les roches me plaisent, la nature me plaît, et je veux travailler avec ça.
Mais c'est quand même drôle, je veux dire, tu as commencé à travailler dans la nature, avec la nature, puis maintenant tu es rendu que tu transportes tes roches dans les musées. Je veux dire, tu penses pas que la nature, elle doit rester dans la nature, quitte à faire des événements dehors, que tu transportes ça dans un
musée. Je ne pensais pas à cet élan. Même, je pense, est-ce que ça c'est de là ou est-ce que ça doesn't matter pour moi, cet élan? Je peux même voir les veines dedans, les roches. Mm-hmm. Et j'ai commencé des séries de peintures qui sont reliées à ça. Mais dans le cas des roches, j'avais les roches et pour moi, ce n'est pas une. Quoi? Je n'avais pas la solution de mettre ça dans une ambiance culturelle. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait, j'aime ça, mais dans la campagne.
Mm-hmm. Et pour que ça devienne une œuvre d'art, est-ce qu'il faut le mettre dans une ambiance culturelle?
Et ça dépend à qui on adresse ces choses. D'après moi, on n'a pas besoin de mettre ça dans le musée. Mais pour montrer aux autres, des fois, c'est mieux de mettre ça dans le musée.
Est-ce que tu dirais que ce que tu faisais en 62, les tas de roches étaient déjà des œuvres d'art? La question est d'où est triple.
Mais qu'est-ce que c'est des œuvres d'art?
C'est ça, justement. Tu dis qu'en 63, quand tu faisais les tas, les empierrements, tu disais Je faisais ça, mais je pensais pas que c'était une œuvre d'art. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Et maintenant, tu reprends les mêmes roches. Et maintenant, si on disait que c'est des œuvres d'art, les, mettons les cailloux du Musée de Québec, tu dirais oui, c'est des œuvres d'art. Non? Qu'est-ce qui a fait qu'entre les deux temps, c'est devenu maintenant des œuvres d'art, alors qu'en 63, ça n'était pas.
Mais la chose de rappeler que je suis un artiste, que même.
Que tout le monde peut être un artiste.
Nous sommes dans une ambiance culturelle, un monde d'artistes.
Mm-hmm.
Et c'est nous autres, nos pères, qui nous comprennent. Pour les autres, ça ne veut dire rien.
Mm-hmm.
Alors, ça, c'est, d'après moi, des œuvres d'art, parce que nous sommes dans toujours ce milieu.
C'est nous-mêmes qui faisons, c'est le milieu qui fait la.
Mais pour les autres, l'autre, oui, ça veut dire rien.
Ça veut dire que les tas de pierres sont, pour la majorité des gens, ne sont pas des œuvres d'art, mais entre nous, on les met.
Mais premièrement, pour moi, c'est mes besoins. Et comment on peut verbaliser ça? On sait qu'on vient de la nature. Nous sommes de la nature. Et d'après moi, j'aime travailler avec de la nature. C'est mon maîtresse, on peut dire. Mes configurations, mes changements, mes interactions avec des autres choses.
Et c'est ça qui fait le voilà. Ou c'est toujours comme ça, le consensus?
Pas toujours. Est-ce que l'œuvre d'art a quelque chose de carité ou non?
Est-ce que le regard vient pas plutôt du regard du spectateur? C'est-à-dire qu'elle est définie comme art, de l'instant où il y a le spectateur qui la regarde.
Oui, je pense que oui. C'est l'autrui, on dit, qui dit que ça c'est de l'art.
Parce que tout à l'heure, en venant sur la rue, j'ai vu un madeguier dans le milieu de la rue avec une roche sur chaque bout. Je regarde ça, je dis, hey, c'est d'art conceptuel, tu sais. C'est plutôt étiquette qui passe à côté, il n'y a rien là-dedans. Mais je suis sûr que celui qui l'a fait, il l'avait en tête. Puis je me disais, c'était de l'art. Pourquoi? Parce que moi, je le voyais de même. Mais si je n'avais pas été là pour le regarder, ça n'aurait pas été de l'art.
On peut dire que c'est un frame of mind. Un frame of mind qui change toujours. Parce qu'on a beaucoup de choses qui sont dans les musées, dans les galeries, qui n'étaient pas comme de l'art dans leur temps, dans leurs endroits. Ça, c'est de l'autre chose.
Alors, il y a la transformation.
Mais maintenant, dans ces années, dans cet siècle, on dit que ça, c'est de l'art. Et c'est nous autres qui disent ça.
Est-ce que c'est l'artiste qui dit ça ou c'est le public qui dit ça?
Comme je suis artiste, je peux dire que ça, c'est de l'art.
Mais à ce moment-là, si quelqu'un, disons, si quelqu'un...
C'est difficile à définir, de trouver les bons paramètres pour bien expliquer le tout. J'ai fait des choses comme si c'était pas de l'art. Mais je sais que je travaille toujours dans ce milieu. Et que c'est les artistes, les critiques, les historiens, les autres personnes qui me comprennent. Alors, est-ce que ça c'est de l'art?
Est-ce que pour toi, c'est de l'art, avec tout ça, qu'on s'entend pour descendre?
Est-ce que ça, c'est de l'art? Tout change.
Et qu'est-ce qui serait, selon toi, de l'art?
Aujourd'hui, ça, c'est de l'art. Demain, peut-être que ça, c'est pas de l'art.
Mais qu'est-ce qui définit, c'est de l'art? C'est l'histoire?
Pour moi, c'est
question que je te mettrais, est-ce que la Joconde, c'est
non, l'art? Est-ce que ça c'est de l'art? Ça c'est de l'art pour certaines personnes.
Je crois qu'il y a une notion de conscience que tu as mis sur le plancher.
C'est possible. Je n'étais pas assez grillé comme ça.
Mais moi,
c'est une réflexion que tu mènes pas. C'est-à-dire que tu ne fais pas comme ça.
Des fois, je me pose des questions comme ça, mais je n'ai pas les réponses des fois. Et je dis que, au lieu de chercher les réponses des fois, c'est mieux de faire des choses.
Et
faire ça aussi mieux que possible d'après moi. Et pas être limité à
dans les peintures, dans, dans cette veine ou dans l'autre veine, de toujours travailler.
Et là-bas, c'est toi-même qui t'assures.
Et pour moi, ça c'est quoi? Me rapprocher à cette, peut-être quelque chose entre les guillemets, l'être humain, on peut dire, cette, ce sens, cet esprit. Mais ça, ça c'est dans n'importe quel domaine, d'après moi.
C'est que...
Est-ce que c'est trop vague?
C'est que c'est complexe. Mais quand tu as commencé, là, bon, je regarde, conglomération, là, c'est tes premiers travaux de roche tout seul à Saint-Jean-de-Mata. Après ça, entre-prendre, trace à marée basse, tout ça, j'ai l'impression que tu es encore en vacances, puis là, tu t'amuses à observer les phénomènes. D'un coup, sondage 69, Musée des Beaux-Arts, puis là, c'est un Canada en parenthèse, là, ça semble ça être vraiment là, des expositions, là, de groupe où là tu es impliqué là, dans un contexte culturel où tes roches sont plus dans la nature mais là ils deviennent dans un espace fermé. Est-ce que
mais à ce temps-là, 63-67 et peut-être les autres temps, ça c'est pour moi.
Mm-hmm.
Et je dis au commencement, c'est pas les expos, ça c'est les quoi, les événements.
Ok, c'est des événements qui se fâchent.
Mais on a toujours les conventions, ça c'est les expos, solo ou groupe.
Mm.
Pour moi, j'ai commencé ça avec activité, événement.
Ouais.
Et ça veut dire que ça, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, sans les visiteurs, sans le monde, sans le public.
Mm-hmm.
C'est comme des travaux d'étudiants.
Mais à ce temps-là, en 67-68, on a du monde qui m'appréciait et qui me cherche.
Alors,
ils demandent les choses pour les expos. Et avec cette attention, avec cette réception, cette interaction des idées, ça a comme en anglais dit snowball effect.
Bon, OK. Les premières affaires que tu as exposées, là, ce sont des peintures?
Surtout les peintures. Mais même en 62-63, j'ai fait des peintures. Pas comme cette genre de géométrie que j'ai fait, quoi, 67-68. J'ai fait les choses avec de la poussière, les graviers, mélangés avec les peintures. Des fois, j'ai mis les graviers au-dessus de la peinture. J'ai même utilisé les burlap. Je ne sais pas le mot. Burlap. C'est un genre de sackcloth. C'est quoi ça? C'est un genre de toile creux. On utilise ça pour le charbon des fois. Les grosses.
La grosse jute.
Oui, le jeu, ça c'est ce que
yes.
Et même avec les graines, on dit, les seeds de plein, tout ça. Et j'ai changé ici, là, avec les tempera en encre.
Quand tu faisais.
Et pour moi, c'est un autre commencement, on peut dire. En trouvant, j'ai voulu trouver mon moyen, mon vin.
Mm-hmm.
Et après quelque temps, j'ai trouvé que ça c'est trop restrictif et que mon vin est de faire
les choses mentales.
Oui, les choses.
Parce que n'importe quel vin. Tu regardes, tu dis que tu retraces en 63 la conglomération, c'est ça?
Ouais.
Est-ce que dans le fond, le premier geste public.
Non, mais en 63, c'est pas le premier geste public.
Non, mais je veux dire, la première fois qu'il est devenu, que tu as mis tes œuvres, type conceptuel, naturellement, pas besoin de discussion, là, publiquement, comme œuvre d'art, est-ce que c'est à Galerie les quatre photos qui accompagnaient cette expo-là, qui était Prince Edward Island, avec les traces dans le sable. Je ne me souviens plus du titre.
Traces à marée basse.
Les quatre, tu sais, les traces à marée basse. Est-ce que c'était la première sortie publique?
Tu es la première personne
à avoir remarqué ça.
Ouais.
Ça, c'était
et parce que j'avais contracté avec les personnes là-bas en 67 de faire un expo.
Mm-hmm.
Je sais que j'ai fait quelque chose comme ça. Alors j'ai continué avec ça. Mais au même temps, j'étais plus lié à des autres choses, les sand traces à la marée basse.
Mm-hmm.
J'ai pris des photos. Et je ne sais pas comment je vais exposer tout ça, mais à la dernière minute, j'ai dit que j'aime mieux ça que ça. Et je vais monter ça comme par un moyen. Et j'ai mis un genre de
photo.
Quatre photos, quelque chose.
Et quatre photos.
Mais avant ça, j'ai montré ça à quelques personnes ici à Montréal. Mais ça, c'est la première fois publiquement.
Mm-hmm.
que j'ai montré les choses parallèles. Les choses de documentation sur les autres, sur les œuvres qui sont faites en dehors des galeries.
Mais quand tu faisais tes arrangements de là-dessus, pour toi, est-ce que je t'ai bien ta pensée en disant que la création que tu fais, ton niveau d'un réarrangement de l'espace ou de la nature? Toute forme d'art consiste en réarranger la nature, réarranger les formes.
D'après moi, l'art est quelque chose pour nous autres, les êtres humains. Et c'est parce que c'est nous qui décident qu'est-ce que c'est l'art. Parce que à part de nous autres, ça c'est tout quoi. Est-ce que ça c'est de l'ordre, des chaos, des systèmes processus? On ne sait pas. C'est notre reference, notre frame of reference, on a window on all this world. Et si on change les choses, on fait un pattern, un symbole qui nous dit quelque chose.
Ouais.
Le plus répandu que possible, ça c'est mieux parce que ça c'est un symbole qui est tout le monde qui comprend, qui donne des réverbérations à nos origines et tout ça. Et c'est un genre de patterning. Mais je ne veux pas le mot pattern parce que ça veut dire des choses comme mon mère, il y a tout une heure. C'est un.
De structure?
C'est un genre de structure, mais c'est un, pas un structure qui est toujours fixé. Pour moi, j'ai fait ça, pour moi, mais c'est quelque chose de bien universel. Ça disparaît, mais les autres peuvent faire aussi. On est toujours dedans, chacun de nous autres, notre histoire humaine, et ce besoin de faire notre échange avec la nature.
Est-ce que tu
vois
une différence entre l'artisanat et l'art?
Ces jours-ci, ici, oui. Mais il y a longtemps, ce n'est pas le même. Ce n'est pas. Comment ça? Est-ce que l'artisanat était pas l'artisanat, mais des choses, des objets d'art, on peut dire. Pour les riches, on peut dire aussi. Et même, on avait un genre d'art ou des décorations populaires. Mais artisanat aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est trop, d'après moi, trop. Qui cherche le goût plus bas de tout le monde.
It's low appealing, mass appeal.
Yeah. To them, what you usually get is the lowest common denominator. That's what artisanat is today. But at one time, artisanat wasn't that. In fact, it wasn't even known as artisanat. In fact, it wasn't even known as art. It was done. You see, in other words, one of the things that I bring out in my, when I do talk about art or write about it, is I bring in this sort of feeling of pre-verbal, pré-verbal, pré-littéraire, pré-historique, avant nos symboles que nous jouons avec aujourd'hui même. Ça, c'est l'espace que j'aime beaucoup. Parce qu'on peut trouver les autres symboles, les autres sens qu'on n'a pas, peut-être pas encore utilisés aujourd'hui même. Parce qu'on a rejeté tout ça, parce qu'on a besoin toujours d'un système qui est toujours enfermé pour notre civilisation. Mais en faisant ça, on a manqué des choses. Et on trouve ça des fois, on trouve des choses dans l'Afrique, dans l'Amérique du Sud, qui nous donnent à notre civilisation des autres moyens de voir, de perception, d'enjouir notre vie.
Est-ce que tu n'es pas un anthropologue ou un archéologue frustré qui sert de l'art pour chercher?
Mais j'aime beaucoup de choses. Bonjour. C'est pas Reynald, mais Ronald. J'ai toujours écrit à Reynald.
Reynald, d'accord.
Fait
plaisir. Je vais faire des sacs, là.
Je vais faire des sacs, là. Mais je reviens à ma question, là.
Je suis un anthropologue
frustré. pas.
Peut-être oui, peut-être non. J'aime. Non, c'est pas quelque chose de frustré pour moi. Je peux dire non. Pourquoi? Parce que je préfère les choses parallèlement par soi-même. En faisant les visites, en voyant les choses dans le musée, en lisant les livres, in having an open mind on what the origins of original consciousness was. On dit on est frustré parce qu'on ne peut pas faire des choses, mais ça c'est pour moi, c'est, si on veut faire quelque chose, on va faire ça. On n'est pas frustré. On va plonger dedans ça et faire ça. D'après moi.
C'est ça qui définit l'artiste. C'est le fait qu'il y a de plan.
On doit plonger, on doit prendre les risques.
Mais c'est, est-ce que c'est là la démarche d'artiste? Dans son secteur?
Je pense que l'art, c'est quelque chose qui est avant nous autres, qui est dedans nous autres, qui nous pousse. Et c'est à nous autres de faire ouvrir ça, de montrer ça.
Mais il y avait seulement
de laisser ça bouger.
Est-ce que tout le monde fait ça?
Non, parce qu'ils sont coincés, on frappe sur la tête, on dit ce n'est pas des choses à faire, on doit faire ça. Et après quelques temps, on peut voir les enfants qui font les choses. Ils ont des beaux dessins, ils aiment la vie, ils aiment explorer ici et là. Mais après quelques temps, on doit se taire, on doit suivre les règles, on doit être dans la civilisation.
Mais est-ce que c'est le fait de justement rejeter les contraintes sociales, c'est-à-dire l'entendement général, et de faire plus, de faire autre chose que ce qui nous est demandé, qui fait qu'on devient artiste?
J'ai pas compris.
Non, c'est-à-dire, toi, tu dis justement, les enfants font ci, font ça, puis là, à la longue, c'est qu'on leur tape sur la tête en disant, fais pas ça, suis telle règle, suis. Et à ce moment-là, tu dis, l'enfant cesse d'être non créateur, ou à un moment donné, l'individu cesse d'être non productif.
Il est toujours là.
Latent. C'est-à-dire latent dans le sens possible et non réel.
Oui. Et après qu'il est élevé, grown up, il demande aux autres, aux artistes, de lui donner ce sens, de compléter ce besoin.
Mais on revient à une définition de l'artiste.
Ouais. C'est que sans.
Oui, parce que je dis en 67-68, parce qu'on m'impulse, on me demande, je suis retourné.
D'exprimer.
Parce qu'il y a eu des expériences dans le sort que certains ont remarqué, ont endossé. À ce moment-là, tu as dit, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et à ce moment-là, tu as pu prendre des tableaux que tu faisais, les mettre sur la tablette.
C'est pas si mauvais que ça.
Non, c'est que ça répondait à.
Parce que j'ai fait ça quand même. C'est que maintenant, on peut mettre ça dans les lieux artistiques, dans les lieux, pas artistiques, mais dans les lieux culturels.
Mais quand avant d'être dans le lieu culturel, est-ce que c'était pour toi des œuvres d'art aussi valables ou aussi réelles? Donc, valables, ce n'est pas une notion de qualité, mais une notion de présence. Aussi réelles avant,
mais même moi, à ce temps-là, est-ce que ça c'était là pour moi?
C'est ça que j'aimerais
savoir. J'ai la question. Je me posais, mais je n'ai pas les réponses. Mais j'ai fait ça quand même.
Mais tu ne peux pas répondre.
Et j'aime ça beaucoup. Ça, c'est pour moi quelque chose de bien vibrant. Est-ce qu'on dit ça?
Oui.
Et je continue en faisant ça.
Autrement,
et après, on peut montrer ça au monde. Parce que le monde me rejoint.
Because then you satisfy un besoin of the public that would like to do it, but they don't have les moyens de le faire. Et puis l'artiste se trouve à répondre à ce besoin-là. Ton travail répond à instinctivement à ce que d'autres gens voudraient faire, mais ne peuvent pas faire, ou ne font pas. They didn't get involved.
Mais ça, c'est une définition bien, pas mal générale pour tous les artistes. Ouais. Ils sont dans ce domaine pour éclaircir cette vie. Creative, je ne sais pas les mots exacts.
Je voudrais savoir aussi, pendant les 7 ans où tu n'as pas produit, là, qu'est-ce que tu faisais?
Oh, j'ai passé quelques temps en Europe. J'ai travaillé dans le bureau, j'ai changé des emplois. J'étais pas mal pas tellement dans ce monde, mais obligé d'être dans ce monde par les autres forces personnelles. Je ne peux pas
survivre
le mélange trop dedans ça. Ouais. Mais this is like getting into an area which it may help you, but then it may not. I don't think it's really essential.
Mm-hmm.
Let's say that I wasn't very forceful about what I wanted to do, and I was under, let's say, outside pressures on me. And even right now, I still have, as you probably know, some reflexes of, what you say, shyness or holding back and that sort of thing. This was like more of a prevalent thing at that time, so that I wasn't, let's say, the master of my own destiny. So this was sort of like holding me back from doing a number of things until at one time I was able to by a number of circumstances, because of being in this other world, so to speak, it had gotten to my system. And like I said, you know, I mean, it was just eating my guts up, literally, because that's what it was going to do.
Mm-hmm.
Eventually, by some changes, maybe by some happy chance, I came back. I was just like a mad, you know, it was like I didn't do nothing for 7 years, but when it just burst out, I just went like in 10 different directions at the same time.
Mm-hmm.
Until you know, I got down to let's say 2 or 3 directions, but I had to go through like this sort of area at first.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And these are things that I find as I keep en plongeant.
Mm-hmm. Et puis actuellement là, tu travailles en plus. Tu travailles 5 jours par semaine ou tu.
Pour le moment.
Parce que tu voudrais à un moment donné ne faire que ton art. Eventually, you would. Like to do only your own.
Well, the thing is that if you're married and you have a couple of kids, I look around and I see some of my fellow artists and friends, and I see that most of them are single, or the families are broken up, or they don't have any kids and this sort of thing. Now, I could get into that situation, or else I could maintain what I have right now. And it's not that much of suffering in a sense that I can still maintain quite a bit of work even with the time I do have, because even though I'm doing the other thing, my mind is, you know, I'm doing this in front of me from which I'm getting money, but that's only part of my mind. The other part of my mind is working out on other possibilities so that this can be used later on for my regular work, which is the lotto.
D'ailleurs, je trouve que c'est un exemple assez unique de quelqu'un qui travaille à temps plein et qui arrive à produire comme ça.
Well, I guess maybe it's from experience, you know. I mean, I work full time, but they know about what I do elsewhere. They don't like it, and I've been hurt a lot of times because of this, you know, like one way or another. But I sort of, it's like anybody else. Like you get into a teaching situation. You get into a high school or a CGF university, and if the people there who are your bosses think one way that you got to produce, you know, good commercial artists, it's, you know, it's almost the same thing. Or if a guy has to be has to make his living by being a taxi driver or a truck driver, the same thing. You've got to get this money in. And with my art, that's very little money coming in, obviously, because it's not made for that way. Like you get in a situation like one in there, you know, I mean, you can work in his art. Because this is kind of a merchandisable thing that, let's say, the upper classes would like to have, you know. But even them, I'm sure, must be sort of, they don't have the liberty. They talk about, you know, their liberty within art, but I sort of feel that they are sort of committed to doing this thing and they can't get away from it.
Mm-hmm. And again, I'll ask you 2 questions. First, I'd like to know what is your occupation during daytime?
What I do,
specifically. Yes,
are
you a designer?
Oh no, it's entirely different. I work in the credit department, which means means I have accounts receivables I have to
and that's now
for the company.
Speaking about Tuzignac, you talk about upper class. I'd like to know for you, is there any relationship between art and politics and or art and social meanings, or the meaningful the meaning of your product? Your relationship with art and or feedback, or
if art is a political gesture. That's it, Robert.
Well, this seems to be like a very wide area.
I mean, for your own works, like the line passing through Canada is a kind of statement of federalism, right?
Well, you could see it like that, although I didn't see it. I thought of it more or less in a formalist sense. In other words, I took a line, which is actually two dots, and extended it to a point where you couldn't see the ends anymore. So in other words, if you extend a line, because I worked with a very minimalist formalist kind of sense at that time, and do it long enough, eventually you'd have to sort of get over the curvature of the earth. And is it really necessary to have the whole line complete? Why not have references to it? And I put this like on the landscape. First of all, I did it, let's see now. Well, there was this, you know, the Les Plans Spatiaux?
Mm-hmm.
Je pense que tu as vu le premier que j'ai fait à l'école des Beaux-Arts. C'est un genre comme ça. C'est un grand C, on peut dire. Et après ça, j'ai fait un autre plan spatial tordu. Mais l'œuvre ici, c'est l'espace entre, c'est Ruben Gamet. Tordu dans les deux galeries. Et après ça, j'ai mis ça en dehors. J'ai fait une ligne dans la neige.
Oui,
c'est bon,
je pense.
Non, je n'ai jamais. J'ai une photo dans le catalogue. Oui. C'est ici. 19 000 ici. 69. Ça, c'est les lignes que j'ai faites ici. Ça, c'est dans le parc. On est en train de faire la grande chose de Taillebert.
Un parc maison là.
C'est dans le même parc. Et j'ai commencé près de Boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans Pointe-à-Trembles ou Montréal-Est. Et j'ai fait cette ligne jusqu'à Cadre-Waga. Mais j'ai commencé avec une carte de Montréal. J'ai fait la ligne le plus longue possible sur la carte. Et j'ai fait la ligne dans chaque parc. Que cette ligne traverse, je vais être là pour faire visible dans cette partie. Mais le tout seul à lire par la pensée, par les projets, tout ça. Et j'ai fait ça dans chaque parc. Après ça, c'est des autres choses comme ça, de Longueuil jusqu'à la dalle, Saint-Thérèse, quelque chose. Et après ça, c'est la ligne de Prince-Édouard jusqu'à Toronto. Et après ça, c'est la ligne France-Canadienne avec le Gomercure, donc comme dans chaque
musée.
Et après ça, c'est la ligne mondiale. Mais c'est toujours, je travaille avec les éléments formels, que si on réduit les choses assez, à la fin, on a peut-être même. Les mémoires, les projets, les plans, l'idée, le concept qui est finalement là. Mais ça, c'est dans un autre domaine à cet temps-là.
Ce temps-là, c'est pas là. Quelles étaient les intentions derrière ces lignes-là?
Comment?
Quelles étaient les intentions de marquer l'espace comme ça? Quelles étaient les intentions derrière? Dans ton esprit, pourquoi tu faisais ça? Pourquoi faire une ligne de pointe au temps à Cadenovac? À part il y a 19
pages. Mais comme je disais, au lieu d'avoir une œuvre dedans le musée, et j'ai déjà commencé des choses, comme je dis, monter dans la lieu de Prince-Édouard, des lignes dans la salle, j'ai décidé de faire quelque chose. assez répandu. And I'm losing my sense right there. As possible, with as much as much physical fact as possible. Then I realized that it wasn't really necessary to have this physical fact. In other words, I started with the physical fact in making a spatial plane within one room. Like I did some rooms where I had like one line like this, mm-hmm. and that the work was actually this spatial plane between the tape. Then I went into two rooms and then down to a corridor. And then eventually I said, well, why do I have to use even the completion of the physical fight? Why can't I go into other things? Because, you know, because these things couldn't last. And I can see the possibilities that can extend beyond that. Well, why not get other people to do it for me too?
But why market space? I would start underlining this, let's say you take this.
Yeah, well, this goes back, I mean, in another sense, to that we are working with elements outside of ourselves. We are doing some changing of some phenomena by ourselves. And with me, I am an artist. This was what I was doing at that time. I was working with these elements.
Yes, but why?
You try to establish correspondence, but the fact that it is art that you're conscious of the correspondence you want to establish.
We're really gone. Why do I do that? Well, we'll get back to that later. Why did I work with space, intangible? But I guess maybe what I was saying to myself was, why can't it be these other things? In other words, even in my paintings at that time, I got to a point where my paintings were very flat, and there's very little space in them, and I had to somehow break out of this, you know, become too constricting. And I was getting to an area where the subtleties were that, why does the subject have to be within a painted surface? Why can't the subject be outside, which is always around us? I mean, we're always conscious of how space affects us. I mean, for one thing, when I made that one piece, well, I made several of them, in fact, of a line right around the room, all you could see is the tape. But people were very aware of the space that it contained. Like they would, you know, sort of, they wouldn't walk through the first, but they would sort of walk up to the line and hesitate, and it'd be almost like a physical thing. You know, this was to bring out the point of the fact that space does matter to us. And besides, I mean, if you break space far enough down, I mean, you'll find it's made of all kinds of molecules, usually dust and all kinds of human and animal debris, and mineral debris, you know, three things, animal, vegetable, mineral. And even the space between all the planets and the galaxies is not just space, it's all kinds of dust debris, which we don't see. I mean, here again, in an area of degree, there's not pollution out there. It's sort of gases which are sort of breaking up or coagulating to make other systems and such.
But the gesture,
I'm really getting away off the subject, but I'm trying to point at the fact that nothing is something. Space is an entity.
And what you want to do with your work is to show to the people that everything is maybe an entity.
Right, even space.
That's your orientation between beyond your words or before your gesture.
At times when I do these things, I don't always have, you know, like my ideas a priori, you know. Mm-hmm. I do it, and afterwards I say, well, why did I do that? And sometimes I may bury it, you know, but then maybe surface 10-5 years later when it has some significance. And these things are sort of, sometimes they're done as a question, you know, or not so much as a question, but I feel like I should do it, without even knowing what I'm doing. And eventually, I can find what it does mean from my own experience, you know?
You have to fill up your curiosity. You must go to the end of it. If you think something, then you try it, and the result when you
check the result. Yeah, but then I always hit myself back with what am I checking? What are my guidelines I make my check with? Are they valid? You know, are the others or are they mine? You see, so sometimes, you know, to me, there's always this feeling of, you know, people come along, they put down one sort of frame of reference, you know, they come with other people's ideas, other people's systems, other people's symbols, you know, and I want to sort of break this. Not so much for breaking it, but for showing that, you know, there's other worlds which are sort of in between these symbols, which have never been sort of worked with, which may be exactly the same, or close to it, but could be somehow worked with and brought into our more concrete knowledge. Does that make sense?
Yeah,
but how do you say that your work is conceptual?
To me that your work is physical too, and I just discovered now. Because you speak of molecules and, you know,
it's just that you just do it.
It's only the sight that changes the sense.
Well, sight is only one sense. The input data system that we have, that other things.
There's
too.
Only one.
It's only one of several. Such things as smell here and where you go, you're saying.
Mm-hmm.
But you said concept. I mean, when I am a conceptual artist, if you look at the term of concept art in its most wide definition, if it gets down to a very narrow definition, because even within this field, there's all kinds of areas. Then you have to exclude me from being a concept artist. You can call me a concept artist because I do rely quite a bit on.
Take a trip with the astronauts up there. but this is sort of out of the realm of possibility right now.
Conceptual
art. Is it going?
Yes.
In the wide definition, I'd be included, but if you get into a more stricter type of definition, I could be excluded from, you know, many areas. But in my work, there is a lot that relies on the idea aspect of art. All art, in fact, is, you have the objet d'art, but you can't make an objet d'art without some sort of an idea structuring. And I'm not alone in this field, as most of us are aware anyway, and this is sort of redundant, that these days we are becoming more and more oriented towards the, let's say, the idea side of the equation. Like, you have the idea, goes to the creator, to the object. Okay? Now, this sort of end here, the object, is sort of being obliterated, so that you're getting the creator or the artist and the idea. And my work tends to be in this sort of area of the two. Of course, you're always in the middle one. But it's of the idea side rather than the object side. But I still make things. And the way that these things are perpetuated usually is by our means of communications, which is rather than using, let's say, paintings on a canvas or, you know, a bronze sculpture sitting on a base in the middle of a gallery, is by media such as, I haven't used tape recordings, but there's video, there's offset phone books, there's photos, this is like our common currency exchange that we have between ourselves, and I'm utilizing that for my work.
Mm-hmm.
That's good. I didn't know so much.
And you see, so you see, there's still this sort of objecthood, but it's in another area, you see. And I'm not going to be a hypocrite and say, well, my work has no objectivity to it, or I don't want any art, I'm an anti-artist. I think it's being very narrow, you know, in my personal opinion. Because in a way, I find very much related to everything that's happened in the past. I can't deny many things that happened there. I'm very much with it.
It's possible.
But the thing is, what I don't like is the fact that people just don't have enough of an open mind to appreciate this sort of thing. You know, they still want to, you know, if they take money out of their pocket, it's got to be for hard object.
and something that's already been acclaimed and appreciated by third, fourth party outside of themselves. But this is because they're getting to know more of my work, and I guess maybe they figured it was a good idea and started investing in the van. Mm-hmm. But still, it's nothing compared to what I think that some of the artists make who are working in the conventional and traditional molds. That's right, and let's face it, I mean, in Canada these days, even the reason why we're all here is the fact that we are subsisting by a government grant. I mean, right now I think they have a federal grant to get this project, this show going. And I rely quite a bit on that. I mean, my books are done this way, and my video and everything else is just done by me. You know, I come up with a project, this is what I've done, this is what I'd like to do, how about something?
Yeah.
Because there's no money, I'm not going to make any money out of this thing, but maybe I'll make one or two sales out of the thing. Anyway, if I sell a book, what is it, $5? I mean.
Mm-hmm.
Nothing like, what did I hear, that the Molinari got 60,000 a couple of years ago, or somebody's telling me this? He sold, I think, 23,000 at the Art Bank 1 year, plus he got a big senior grant, plus this big mural, or I don't know, something like that. So he must have made 60,000 in 1 year. I don't think I'll ever see that. Mais ça, c'est un rumeur, je ne sais pas si c'est vrai ou non.
Peut-être que
j'aime bien ça parce que si j'avais ça, je peux être libre et je peux consacrer mon temps plein en faisant ces choses.
Je pense que c'est même un achat éventuel pour la forme d'art que vous faites, sauf peut-être des émissions pour des compagnies ou des. Pour.
Presque pas de possibilité.
Je pense. Même
la seule possibilité, c'est la bourse. C'est ça.
Ils n'en sont pas encore avec ça. Ils pensent à quoi, disons, de mettre un amas de poteau et de roche devant.
À moins de leur prouver.
Ouais.
Si, je vais donner juste hors discussion, presque. Si il y a un consensus
de propagande pour rassurer tous les collectionneurs et le monde, que c'est toujours la peinture qui est vivante, mais ça, c'est faux. cette expo qu'on a là-bas, c'est un, comment dire ça, by humiliation, but a blow against people who really want to make art.
Mais dans le catalogue, justement, de présentation, Fernand Saint-Martin dit il est regrettable que des gens comme Gagnon, Boucher, Perron, Bazin et Palumbo n'y participent pas. Quelle aurait pu être votre participation ou pourquoi n'avez-vous pas participé ou avez-vous été invité à participer à cette exposition-là? Parce que votre nom est dans le. Vous avez remarqué, votre nom est écrit dans l'article de Fernand Saint-Martin. Ah bon, il est mentionné, il est regrettable que des individus tels que Boucher, Gagnon, Ferron, Vazin et Palumbo ne participent pas à cette exposition.
Est-ce que tu avais été invité?
I was approached. But I was thinking about it, but I, because I do work in painting, and,
yeah.
But it wouldn't be in this sort of series here. It'd be, are you aware of my land?
Now what he's saying is that
topography.
Fernand Saint-Martin is regretting the fact that you are not included in the exhibition.
Yeah,
were you invited to participate in the exhibition?
Oh no, I wasn't invited. No.
Not at all. She never contacted you to say, can you be in the exhibition?
Well, there was some exploratory talk, but it never developed too far.
But what
she
I mean about it, because it's written in the catalog that you should be there, but you're not. So I'm asking to you why. You've not been there? You had no work at all? Or?
Well, first of all, I didn't have too much work around. Because there were some questions about that, and I had a couple of, I had this show here. If you notice in the photos, I show some paintings and they just sort of committed
to all this,
you mentioned.
But I wasn't that enthusiastic about the show myself, and because it wouldn't be, let's say, a true illustration of what I'm doing.
But you represented it in your work.
But you would say that the thing is, you see, in the show, if you look in the other areas, we're not talking about this King Canberra show, like the like Balkine in Ontario, and some people out west, and well, in every other area except Quebec, these people went to, seem to be younger, experimental people. Some of them are also conceptualists besides their painting. Like, for instance, in the Halifax group, you have Ferguson and Parsons. I mean, they're into these other things. But they got their stuff into the show, but in this canvas side of their work.
But we have too many things.
But what Fernand has done is, I don't know, she's part of that neoplastician gang, you see, and she didn't sort of go too far
outside
of that group. Mm. Or let's say, from what I can see, she went with history. She went with the sure thing. You know, I mean, there's nobody there that you can quibble about. I mean, if you're thinking in terms of painting now, you know, these guys have been successful, have been successful for some time, and nobody can say anything against that choice.
Mm-hmm.
But she didn't want to give any, maybe, credits
mm-hmm.
to a newer group, you know, or what
the possibilities are.
Like, I did some painting, which you could classify as being canvas work. In fact, this that shoe that I'm doing right now, this datings, I mean, some people see that as a painting.
Or the thing of Arctic paintings, you know, the painting with the rocks, or the other one with the kind of painting, the way yes.
You're speaking about this?
Yeah. That's you.
And this also?
Yeah, these were paintings that I had. Well, these are not paintings, these are... But that's one point that I should bring up to you, that people tend to think in straight lines, you know. In other words, they figure I'm a conceptualist, anti-painting.
Mm-hmm.
I'm not an anti-painter. I paint too.
Mm-hmm.
But this is only one of the things I do. In other words, my philosophy is that any means can be used to express, that sounds so cliche, but any means can be utilized in whatever research or whatever investigation you're making, which would include medieval straight painting or something that are some things that are allied to it. In other words, I'm not going to say, well, painting is dead. I'm not going to do painting. I think this is more in a class. This is sort of like an area of critics and historians would sort of work with it, where they tend to draw lines through history, you know. Whereas an artist tends to have a more of a flat and a round type of ambience, you know. And he'll sort of work here and there, and this is the way I feel I should be working. And you probably notice that when I do get into, let's say, areas of painting, these are sort of things that have been bought into it from my other works. Like when I get into these topography, like
mm-hmm.
these aerial views of landscapes, or into these dating things, which rely to time things, that it has sort of come out from my work in the field, so to speak.
Mais la différence qu'il y a, par exemple, au niveau du produit. Si, par exemple, tu disais tout à l'heure les accumulations qui sont là, les poteaux de téléphone ou les rocs, dans le musée du Québec, tu disais que ça a été fait une fois et ça ne pourra plus exister sauf là. La seule différence, c'est que si tu opposes ça au tableau, la démarche est complètement différente. Parce que le tableau, lui, reste. Et le tableau n'a pas d'autre documentation que lui-même. Il y a des différences entre ces deux trucs-là. Ça ici, ça c'est une œuvre d'art classique. Et ça, c'est une œuvre d'art...
Non, ça reste une œuvre d'art classique.
C'est
ça, c'est les moyens classiques, on peut dire.
Mm-hmm. Est-ce que tu veux dire le tableau là-dedans? Parce que la question que je voudrais entendre, c'est une observation. Okay, c'est pas une question, c'est une observation. Tout à l'heure, tu définissais la démarche de l'artiste en disant, dans le passé, l'artiste avait un concept. Il fabriquait un objet.
ça c'est là-bas, ça c'est les dates sur les things. Ça c'est pour la trace du temps. Cerner le temps, comme j'ai cerné de l'espace avec le cadran de la parenthèse.
Oui, mais la forme de
quand
même.
Ici, c'est la forme plus conventionnelle, on peut dire. Et ce que je veux dire, c'est que toi, tu disais la démarche classique de l'artiste est il avait une idée, il fabriquait un produit, et l'art était le produit, était un objet. C'est un moment de mission. Dans le passé, la démarche traditionnelle de l'artiste. Oui, bon. Alors, moi, l'observation, je veux dire, toi, tout à l'heure, après ça, tu as rajouté de toi-même, tu as dit, moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le concept au concept. C'est-à-dire, le concept dans ma tête, au concept que l'individu a quand il perçoit ce que je fais. C'est-à-dire le témoignage de mon concept, c'est-à-dire un objet très théorique. OK? Mais moi, ce que je voudrais amener comme observation, c'est qu'on dirait que ta recherche, au lieu d'être une recherche de concept, conceptuel, est une expérience d'objet. Et qu'après ça, c'est quand... ça, c'est compliqué. Et c'est quand le concept est perçu par le spectateur, ou assumé par le spectateur, que l'objet devient leur entité. Autrement dit, quand tu faisais des traces dans le sable, tu y croyais pas plus que ça. Après ça, tu as fait une documentation des traces dans le sable. Mais il n'y avait pas de concept prérequis avant les traces dans le sable. Tu sais, à un moment, tu marchais dans le sable, tu faisais des petites traces comme ça avec tes pieds. Après ça, tu as pris l'appareil photo, photographiais ça. Là, il n'y a pas d'œuvre d'art dans le sable. Il n'y a rien, il y a juste des traces. Là, tu mets ça sur le mur, ben, regarde, c'est là que l'œuvre d'art est. Mais dans ta démarche initiale, c'est pas une démarche conceptuelle. Le premier propos, c'est de marcher à quatre pattes, dans le sens. C'est-à-dire de marcher, de tracer de ça. Et dans ce sens-là, tu as l'air, ça c'est une observation, c'est comment je vois ton œuvre. C'est que toi d'abord, tu fais des gestes qui sont des gestes. À ce moment-là, c'est des gestes individuels chez toi, qui sont des obsessions. Et c'est quand tu les traites et que tu en fais un objet de documentation, c'est là que tu les assumes comme œuvre d'art.
Mais j'ai déjà dit, je pense, pendant cette séquence, que je suis toujours un artiste. Je travaille dans le monde d'artiste. Oui, et même que j'ai fait ça, ou j'ai fait des traces dans le sable, ça c'est une expérience pour moi-même, initiale. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu, ce que j'aimais. Peut-être que ça c'est des obsessions.
Non, c'est ça que tu dis, toi. Tu viens de
mais,
dire.
Mais après, j'ai fait des documentations par ces moyens, ou par le. Ça c'est la chose qui semble à la peinture.
Mm-hmm.
J'ai montré ça au monde, et surtout le monde de mes pères, le monde artistique.
Et je dis,
comme je dis, je suis dans un sens comme à l'effet pour l'autre personne qui ne peut pas faire ça, pas à cause de n'importe quoi.
Ah, c'est ça, mais je veux dire, c'est que ton geste d'artiste, c'est que tu assumes ton geste d'artiste au moment où une expérience individuelle, c'est-à-dire même si tu en définis toi comme artiste, si tu fais un grébouillage quelconque, tu ne veux pas dire que tu es une œuvre d'art, c'est d'abord un grébouillage. Mais c'est au moment où tu transmets
un document d'événement. C'est pas une question d'œuvre d'art ou concept. Pour moi, c'est moi seul avec la nature, c'est moi sans les autres.
Sans intention de communication, c'est toi qui s'exprimes.
Je sais souvent que ça, on aura des communications après, mais moi, à ce temps-là, des fois, comme je dis, je n'avais pas les idées a priori. C'est moi, là, je trouve les choses, je vais explorer les possibilités. Je ne sais pas quoi faire de quoi, mais quelque chose arrive. Ça, c'est mon interaction avec les choses à part de moi, qui n'est pas à part de moi, mais qui est moi-même quand même.
Oui, mais...
Et c'est un agent de l'universalité, je ne sais pas, c'est difficile d'expliquer.
La preuve...
Mais après, ça c'est dans ces moyens, dans cette chambre ici, même en faisant tout ça, ça c'est le monde d'artiste. Mm-hmm. J'aime mieux le mot quand c'est le lieu d'artiste. En anglais, si on dit artistic, ça, c'est pas de l'art. Je ne sais pas si on a le même sens en français ou non.
Pas si rigoureux.
En anglais, on dit si ça, c'est quelque chose artistique. C'est comme artisanat au lieu d'art.
Ah bon?
En anglais, on a cette perception.
C'est plus large, l'artistique est plus large en anglais.
Non, c'est quelque chose de plus négatif. On dit
c'est péjoratif, à la rigueur.
Je pense que Ronald veut.
Oui, mais c'est parce que là, j'ai l'impression. Je suis déjà à croire ce que tu dis. Parce que tu photographies. Oui, c'est ce que je veux dire. Moi, j'en ai fait des affaires marcher sur le sol, marcher dans la neige. Puis j'en ai fait demander pour m'amuser à tracer des figures. Mais pour les photographies, il aurait fallu que je me dise, je vais photographier parce qu'à un moment donné, je vais montrer à quelqu'un et peut-être y monter dans une galerie. T'sais. Parce que tu dis, ben moi, premièrement, je marche et puis je fais mon affaire, c'est un contact avec la nature. Et plus tard, ça peut devenir une œuvre d'art. Mais je me demande, est-ce que c'est réellement vrai? Parce que sinon, pourquoi tes photographies? Faire des souvenirs de voyage? Les photos sont pas mal bonnes pour des souvenirs de voyage.
And
I can ask you
that's not the conventional type of photos you would see from having a trip.
That's what it's saying.
Non, mais je pense qu'il a expliqué au début, Ronald, c'était à quoi sa démarche. Quand il a fait ses traces dans le sable, puis qu'il a pris des photos, c'est qu'il y avait une curiosité pour lui. Puis la première exposition, c'est des gens qui ont vu ces trucs parce qu'il y avait l'idée. Je veux dire, il y avait quelque chose qui se passait. C'est des gens qui ont trouvé des affinités avec son travail qui a fait qu'il est rentré dans le
musée. I think what you're saying is like when you had this, you know, tachism, you know. My children can do that. They can, you know, anybody can walk out of line. Anybody can walk on the sidewalk.
I think what you mean is that you had a great consciousness of what you were doing. Even
and the consciousness of the communication, because you did take some photography of that.
Yeah, but that's because of my development as an artist.
That's
and being aware, you know, of what are the possibilities and being
that's
constantly aware
okay.
of what
okay,
brought
that's what
in
I was saying. All right.
into the world of the cultural
that's
world, you see? Because as I say, I don't deny the fact that I'm an artist. And I work with people who are in the same realm as I am. So I have this consciousness.
Just an observation, Alain, pour t'aider à comprendre. Au début, tu définissais la démarche classique de l'artiste par le sens artistique en anglais. Tu avais promis de ça de tableau qui avait tout artistique. Tu es coincé, ça devient mécanique, etc. Et ça, il est défini, puis à ce moment-là, il disait qu'il est devenu une activité parallèle. Mais comme tu dis, ça, ta question de faire valeur, pourquoi les photographies dans le sens? Et c'est là-dessus.
C'est ce qui est le bon.
C'est ça. Et la question aussi, une autre. Pourquoi tu as arrêté de faire de la peinture? Une forme à dessin, c'est comme une exposition de galerie libre, dans le fond, il n'y a plus jamais eu de tableau comme ça. Pourquoi tu as arrêté ça?
Avec la radio de ça.
Just for so.
No.
You know, but like I said, you know, you work in many areas. Mm-hmm. You can't, you know, how would you say, you have a line coming across here, you know, this is painting, this is video, this
mm-hmm.
is outside stuff.
Mm-hmm.
You don't keep on doing it. Sometimes it's like you go along, if you use the analogy of line, and it just fades out, you know, and it drops, and this sort of comes out, you know,
mm-hmm.
and then this fades out, and then this may pop out again, and this may pop out, and I maybe do it two or three at the same time. Like that went into these, like if you notice my paintings at the time were ribbon-like. They're working with a sense of space, a very shallow
mm-hmm.
space within the
well, I remember
the but then that went out into a flatness of one type. You remember the aluminum, the small aluminum ones I was working with? Then I went into the ribbon off the walls, around the space, the real space, and then into other places in the same museum, like the in Sondage 26. Then into other areas. So like that was like sort of a disappearance of painting. And then as I'm doing this, other things come up, and other memories come in, and other things I sort of find as I work about. And so I work in there. And then I find, you know, like I'm working with like a topography type of thing. So this sort of brought another series of paintings to mind. You remember the topography series?
Mm-hmm.
But it's not painting for God, but it's like another kind of painting, you could say.
Okay. So you never stop painting?
No, that's a false question.
You're
thinking in the classic critical
lineage.
Yeah, that's a question.
And this is the kind of thinking that sort of belongs to a group of people who are outside of the artist's experience, I usually find. They tend to get it into historical perspectives, whereas an artist doesn't work that way. He usually works very much of an immediate circling type of experience. I'm trying to make it as simple as possible.
No, well, the only explanation I can give about this question was the fact that the painting you exhibit at the Gallery in 69, 68, was super formalist painting. And that was when I was saying doing painting for me was close to the definition of painting.
Maybe it's
a super, that's a formalist question too. So
maybe it is a super formalist kind of thing I was doing at the time, but I wasn't satisfied with it.
Mm-hmm. You answer it.
I had a lot of experiences where I didn't do art for a long time, where I realized there was all kinds of other possibilities. Maybe by the fact that I could sort of live an art rather than making art, sort of triggered, even way back then, a kind of art which relies quite a bit on carrying it with you rather than in your head and having a frame walking around and seeing things rather than, you know, sort of having to keep it in your closet and sort of hope that it generates a value with the ages.
Mm-hmm.
You know, then there could be this connection.
I have two questions. First one, you always produce. You have small format and you have those things that are placed in one environment and will never be reproduced elsewhere. So I want to know when you do those large pieces that never will be reproduced.
Like this one here?
Like that one. Did you think of it much earlier than the proposition of the museum exhibition, or did you think it specifically for the museum with the space you have?
The way it works usually is that it depends on what is available. In other words, right now, today, I could go sit through my mind and come up with all kinds of possibilities, large format, small format, no matter what, and any kind of elements, but they're not realizable because it takes money to get it, or people's time, or space, and that sort of thing. Now, when I found that I was having the show, and I was talking to Richard and the people there, and I said, well, I wanted something more direct rather than just a documentation on the wall, something I could make for that one space. Would you be agreeable? I said, okay. They said, okay. And I said, okay. Well, how about if you would get some telephone poles? You know, that's a sort of feeling to see how far they will go in accommodating me. You see. I mean, if I could have, let's say, a 50-ton boulder button, let's go ahead and do it. You know?
You're talking about the telephone poles for a bit.
No, I'm talking about these here. And, you know, in this case of budget, you know, they say, well, you know, we have so much for this and so much for that, you know, maybe we can get the money for that, you know. You get down to this sort of thing. I mean, I can think these things out. I make drawings of these possibilities. But when they said that, we can give you so much for that, I said, well, I checked into what the costs were, where they could get it, and then I sort of, you know, tried to get them to give them more, and they sort of, okay, we'll do that, but we can't bring in the whole one, we have to cut them down, because otherwise we have to knock down walls and this sort of thing. I didn't know what I was going to do until I got there, really. No, it was the day, 2 days before. You know, like I knew I had to do something. Like, they're going to give me these logs, and I was going to bring some rocks, they're going to bring some rocks. But I didn't know what I was going to do yet. I knew that there were possibilities that I could work with because I had enough confidence in my history to be able to come up with something. And it just came out a couple of days beforehand. And I went there and it was realized. But I didn't know exactly what it was going to look like that. You know, I didn't know that the logs would have this sort of, previous scope. And at the end, instead of having the flatter gun, I decided right at that spot that they should be sort of tilted up a bit to give it a little more height, as you notice in some of them.
So this is an initial part, eh?
Mm-hmm.
If you notice at the end, see how I got them to come up over there.
Mm-hmm.
Like right now, I have this show at University of Sherbrooke in April, and Jean says he's got the okay from Hydro Sherbrooke to bring in six full-length telephone poles, new ones. They're going to lend them to me instead of these used ones.
Mm-hmm.
I don't know what you're doing, you know?
It's a kind of happening you're doing then. Placing them is a happening.
No, because I know myself that there's all kinds of possibilities. I know I'm working on sort of this sort of thing of imprinting on landscapes and in cultural areas, which is, and it'll be a carry on of this. Would it be a big leap, or be something very similar, or something entirely different? I just don't know. It'll sort of happen to me, like as I get close to this period, and I'll start thinking of, what could be done with it, without repeating myself, of course.
Mm-hmm. But you always employ natural objects. I mean that these posts could be just a field or parts of cars, but then they would have symbolic relations with daily life in an urban environment. And I think that you evacuate all those kind of elements you could take books from Salvation Army, old books from Salvation Army, or newspapers, and you take very formal elements. I think that on that point of view, it's very close to the kind of work you were doing before in that painting. Is it true?
That was a long winded question there. You're aware of the things I've been working with outside, like these balance pieces?
Yes.
Of logs and stones that are held up by a certain weight and gravity things.
Mm-hmm.
And since this is like something very close to what I was doing close to this time, I was thinking, how could I bring this into a cultural milieu? And I couldn't, but we're getting logs and trees. You see, I'm sort of limited by material access. So eventually I was able to find out that, I just happened to see a log laying on the side, and I went in and asked the guy if I could have the log, this telephone call. The guy wouldn't let me have it. He says, you phone up the Hydro in Quebec? They sell them very cheaply.
So there's not many up for 50 cents. You can have a lot of culture, old culture, or metaphors itself.
J'ai vu justement que tu venais à une imagerie urbaine par le fait de prendre des photos de téléphone et de travailler avec les arbres et les roches de la nature. That you come to a urban image instead of a country image. Because now you're using phone logs.
Well, they still have enough semblance to show that they are logs. I mean, they're not in their original context of being telephone poles. You don't see any sort of things where people walk up the telephone pole, they're not their full length, they've been cut. You see that they're within the area of working on a hand imprint. Whatever you produce actually is my right hand imprint on the floor. And I had to make a contour to make visible the fact that I was working with the hand because of it being so large. The people being closer would see more than just, let's say, an arrangement part of the aesthetic of these logs and rocks. But I had to put a contour to show that it was my hand. And that hand is my hand. I didn't bring in actually another photo or the actual drawing which shows that I used my own hand to come up with these lines. Those lines there are my lines.
Yes, but what I was saying that before your hand was working on nature directly, on country, and now your hand is working on rural symbolic objects, like phone logs and not a rock now, but as you're working now in gallery and in art system.
I sort of fail to see the subtlety here, maybe.
Non, mais la contradiction qui est peut-être dans la question qui pourrait être une réponse, je ne pas la penser. Ça pourrait être, avec Bill allait répondre ça, j'utilise des photos de téléphone Parce que c'est les seuls bouts de bois qui ont un peu de structure que je peux avoir.
C'est la fin de...
Les arbres, à ce moment-là, il faudrait les dégosser, mais pour tout ce que tu fais d'avant.
Oui,
à ce moment-là, non, mais, ouais, mais la connotation urbaine, oui, mais la connotation urbaine, là-dessus, fait que même des bouts, des bouts de téléphone, c'est dur de bois.
Let's go into this further. I mean, there's many things there. This is called la carte de ma main droite. The map of my right hand from experience. You have, you're born with certain lines. You know, I'm also a line man, like royal line and all these other things. So you see, I'm trying to bring in all kinds of my history into this one piece. So you have on my left hand are the lines I'm basically born with. But the ones on my right hand are also the ones I'm born with. But because I'm right-handed, I use this physically. These lines change slightly from my own inner experiences and by using it physically. So that this is being transformed in a sense. It's also an imprint, which, you know, works on all these other elements here, working on the surface of the globe, on the landscape. So what I've done is I've brought in natural elements, parts of telephone poles and these rocks, and I've gone back to the taping that I've used in a sense when I was doing these tape spatial planes and such.
Mm-hmm.
What I was trying to do is to bring in a number of things into my past into one piece.
As your imprint of feet in the sand before, now your hand is on the gallery.
And
you have two witnesses of your evolution, rock and
bone. And I'm using material which is found type, you know. I mean, you get into this area of, you know, what is poor art, and l'objet trouvé. These are, let's say, some of my precursors of thought to what I actually do today.
Mm-hmm.
I don't know whether I've explained it to you. Like, you see, this is like my own experience, my life. Actually, what you're seeing there is, in a very symbolic form, and I'm working with primitive science. I mentioned this to you too. I'm doing more of that now. You'll see more of that maybe in some way or another. Are my principal lifelines. There's like my heart line, whatever that is. I'm not that much into palmistry, but you know. The heart line, there's a life line, there's a fate line, and all that sort of thing in there. And I reproduce it on a larger scale to bring out the symbolism. And in doing this I think tends to echo all kinds of concerns. This matter of bringing in natural elements and making an interchange with the culture of milieu, lines, although it doesn't quite relate directly to the way I was using the tapes at the time I started off with this.
But did you explain that in the exhibition to the people visiting
the
exhibition?
I had a drawing where I had a drawing of that, and then next to it I had two actual handprints, my own handprints,
mm-hmm.
and then I made a drawing picking on my line, put on a little drawing, and then I put an explanation at the bottom. So there's more to it than that.
Okay.
This is a photo of the actual physical thing. And is there one photo that shows it?
I guess it doesn't.
Look. Not one of them shows it, actually. No. But I have a video piece that Richard Martel made of me for this show. It's 13 minutes long. He shows you the sketch that I have on the wall, showing how my hand looks like.
Okay.
In fact, right now, I'm doing a number of things related to my lines in my hand, like in my thumbprints in the middle of the hand, in the snow fields. This is something nobody's seen yet. It'll come out eventually, one way or another. I'm doing some videos on it. I've made a 1.5-hour piece and another 20-minute piece on it just recently.
Actually,
I'm doing some screens and
stuff. You work stocking things, and you get them out when you have an opportunity to have an exhibition. You have things that specifically are made, and you have a stock of things.
Possibly. Not necessarily. I'm doing this now because I want to work in this area. I
mm-hmm.
figure that there's much I can, you know, develop,
mm-hmm.
explore, and that sort of thing. And I know because I'm an artist, and as I accumulate the documentation, it'll come into a show one way or another.
Mm-hmm.
Not all of it, maybe parts of it. And maybe I may not want to show, but usually, I've been working on most things that do get shown, because I figure that there is some value to it and it should be shown.
Mm-hmm.
But I don't do it sort of as commercially or as you put it, actually.
No, I put it that you have always something going on. And one way another, you, even if it's not shown, you still always work on it. Like for the exhibition, do you gather for them? Usually they are, we come and get you for the, you have four, five,
Another way is that last week we met the artists, and a lot of them said, well, I'm not very good hustler, and I'm not good to hustle my work. I don't know the true meaning of hustling, but so I would ask you, do you think you're a good hustler for your own work? I heard it before. I heard from someone, well, you know, Molinari and Valzani are very good hustlers for their work.
I think it's maybe a pejorative way. I think maybe it's not a case of being a good hustler, but a case of knowing how the cultural milieu works.
Mm-hmm.
And going to the center, you know, and saying, okay, this is it, you know.
And to be able of speaking of the...
A lot of people cannot explain themselves or what their intentions are, and they just can't come across with what their intentions are. And you know, and two people who, let's say, organize shows or whatever, they look too, how do you say, they're not concrete or clear enough as to what their intentions are. They don't take a position. These people, because they don't go to certain shows or they have their souls here, they tend to, after a while, they have to protect their ego and they say, well, it's because I'm not a good hustler. You know? maybe someday somebody will find me, you know. Today, if you're an artist, you've got to go out and meet the world, you know, and look, this is what I'm doing. You want it or not?
Yeah.
How
you
do
know?
You feel the milieu? What's going on? Do you follow it very much? Do you go out to see the exhibition? Do you read a lot, meet people and speak about art?
I try to be as available as possible and meet as many people and ideas and tendencies as possible, obviously. But I don't like to overdo it. I guess that's it. You know, I do go to some openings. I do visit some people. But I do some reading. I do my own work. But I find at the end, you've got to do your own work. You know, it's a case of priorities. You say to yourself, well, what is it you're going to do? Meet people?
Mm-hmm.
Or read things?
Mm-hmm.
Or are you going to do your work?
Mm-hmm.
In the end, what comes up is you do your stuff.
Mm-hmm.
That's it.
But which relation do you keep with the medium? Do you have a specific relation with the medium?
Well, you know that I'm one of the founding members of Beautiful Art,
mm-hmm.
which was actually set up in the sense that we would like to have more of this stuff that wasn't getting accepted, have some sort of a space for it. So there's some connections in there. And also, I found, as you probably know from worldwide and from context, there's many people around the world who work in this area where they are not commercially viable, you see. And I've made some sort of, I've made correspondence, or kept up a correspondence with some of these people.
Why did you do that? Did you do, let's say, contact?
Why did I do that?
Why?
Worldline was very much of a, to me, an abstract type of piece. You know, you're working with formalist elements. It's a line, it's extended. You're working within a culture milieu. And I want to get into something which is more multi-level and more in a humanist sense. And where I could, even within a very slight framework, depend upon other people coming with their ideas, their own interpretations, very subjective. And so rather than, let's say, having points of reference to cultural milieus. I went to artistic, not artistic, that's a bad word, art presences as points of reference on a book surface. Each one of these people came with a roll of undeveloped film for this context project. And it was their interpretations within, you know, the certain framework that I did set up. But I made it very, very much evident to these people when I made these, you know, these letters, when I sent these guys out, that they should, you know, depend quite a bit on their own interpretations and their own side in participating.
De quelle façon choisissez-tu les gens qui écrivent?
C'est quelque chose de bien complexe. J'ai commencé avec la Ligue mondiale. J'avais ses contacts à ce temps-là. J'ai écrit à ces gens. Et après ça, j'avais des autres correspondants par le fait qu'il y a eu la Ligue mondiale dans ces villages. Ça, c'est des autres correspondants. Et en correspondant avec ces personnes, j'ai dit, OK, est-ce qu'il y a des autres artistes, poètes, n'importe qui veut participer dans la chose? Donne-moi le nom et l'adresse. Et dans plusieurs des cas, j'avais des autres noms et adresses. Mm-hmm. Et avec ces personnes, j'ai écrit les mêmes choses. Des autres personnes. Et après, c'est comme pour la Ligue mondiale, après quelque temps, ça snowball en fait. À la fin, j'avais assez pour faire d'être moi. Un être qui est pas mal à répondre au tout du monde. Mais est-ce que quand on fait contact et éliminer certaines soumises, tout le monde, nécessairement, tous ceux qui avaient écrit ont été publiés dans le contact. Mais moi, ici, c'est la chose financière. Hein, j'avais quoi donc, t'en as éliminé. T'en as éliminé certains dans le contact. Je ne voulais pas éliminer des personnes, mais j'ai éliminé peut-être 5 personnes à la fin. Et les autres 125, 130 personnes, j'ai inclus dedans. Là. Mais j'ai pensé que, OK, j'ai vu quelque chose dans ce pays, dans cette part du monde, dans l'Europe, dans l'Amérique du Sud, tout ça. Mais ici à Montréal, je peux mettre peut-être 50 de personnes dans le même lieu.
Et combien?
C'est Montréal, peut-être 6 ou 7 personnes. Et j'ai taisé beaucoup sur ça pour Montréal parce que je savais que tous mes amis veulent être dans la chose.
Mais pourquoi tu les as pas mis?
Parce que je n'avais pas assez de pages, parce que ça va coûter trop pour moi. Mm-hmm. Et aussi parce que je ne veux pas que je suis ici à Montréal, que quoi, c'est too heavy in the sense of too many participation in this one city. In other words, if I had, let's say, one person in Rome, two in Paris, one in Paraguay, five out of Tokyo. I had, I think, 7 out of Budapest. That was a very good city. I couldn't have 25 out of Montreal, you know.
Okay.
You know, to me, in my sense was that I wanted to make it as spread around as possible. And also my consideration was, look, there's going to be only so much money to do this thing, you know, and I didn't want to sort of overdo it.
Mais comment t'as choisi ici, c'est Montréal?
Well,
la question est pas cochonne. Je suis sûr qu'il explique la question. Juste savoir quelles sont les relations avec le milieu.
I'm sure you must run across this yourself in organizing the shows. And I mean, this book is almost like a show. You know, you sort of, you know, say, well, this guy's got to be in. This guy's got to be in. You know, and that's enough.
Comment les as choisi those guys that must be in?
Sometimes because of their quality of the work. Or because they're friends. And then maybe afterwards when people get to